VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour, le monde aujourd'hui, édition du 21 décembre 2017. En direct de Washington, Idrissa Seloudia et Anne Albertson pour commencer les titres.
En Guinée, les candidats aux élections communales ont 6 jours de plus pour déposer leur dossier.
En Côte d'Ivoire, fin de la grève des professeurs de l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan.
Arrivée de l'émir du Qatar hier au Sénégal, première étape d'une tournée dans 6 pays d'Afrique de l'Ouest.
En Ouganda, victoire pour Yoweri Museveni, les députés suppriment la limite d'âge de 75 ans pour être candidat à la présidentielle.
Ici à Washington, le président Donald Trump et ses alliés républicains au Congrès célèbrent l'adoption de sa réforme fiscale, première grande victoire législative de son administration.
Et ne manquez pas notre page sport ainsi que la minute éco pour l'instant, le journal.
En Guinée, les candidats aux élections communales ont 6 jours de plus pour déposer leur dossier. La Commission électorale nationale indépendante a annoncé hier avoir prorogé le délai initial de réception des candidatures aux élections locales du 4 février prochain. De Conakry, notre correspondant Zakaria Camara fait le point.
Les candidats indépendants et les partis politiques ont jusqu'au 26 décembre pour déposer leur dossier de candidature. 6 jours de plus demandé par les acteurs politiques et accepté par la Commission électorale nationale indépendante. Mais si le délai est repoussé, la date du 4, jour du scrutin, n'est pas impactée, a précisé le porte-parole de la CENI. Chaque candidat doit constituer un dossier qu'il doit déposer dans les commissions électorales communales indépendantes. Les candidats doivent fournir un acte de naissance, un casier judiciaire, un reçu bancaire, un certificat de résidence, mais obtenir ces documents n'est pas sans difficulté. Les acteurs politiques ont donc besoin du temps. Plus de 100 candidatures, dont 6 indépendantes, sont enregistrées et validées selon la Commission électorale nationale indépendante. Attendu depuis 7 ans, le scrutin qui aura lieu le 4 février 2018 est très attendu en Guinée, d'autant qu'il est l'une des principales revendications de l'opposition. Conakry, Zakaria Camara pour VOA Afrique.
Après une semaine de grève, les professeurs de l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan ont repris le travail hier en Côte d'Ivoire. Ils ont obtenu satisfaction sur le paiement d'heures supplémentaires. Le point avec Solange Nyamulisa.
Kwasi Zamina Johnson, secrétaire général de la Coordination nationale des enseignants-chercheurs et chercheurs de Côte d'Ivoire, a expliqué que les heures supplémentaires effectuées durant l'année 2015-2016 ont été intégralement réglées, c'est-à-dire quelque 8 173 millions de francs CFA. La grève a été suspendue en assemblée générale et aujourd'hui tous les cours devront être assurés normalement. Les professeurs s'étaient mis en grève le 12 décembre, paralysant totalement l'université Félix Houphouët-Boigny. Les enseignants du supérieur effectuent beaucoup d'heures supplémentaires car l'État n'embauche pas assez de professeurs. Le syndicat regrette que le problème de leur paiement s'impose chaque année depuis 2006. Le gouvernement et les syndicats ont signé en août une trêve sociale de 5 ans, moyennant le paiement sur plusieurs années d'arriérés de salaire à environ 130 000 fonctionnaires.
L'émir du Qatar est arrivé hier à Dakar, au Sénégal, première étape d'une tournée dans 6 pays d'Afrique de l'Ouest. Confronté depuis 6 mois à une crise avec l'Arabie Saoudite et à un embargo, Doha cherche à diversifier ses partenariats, Claire Moragibour.
À Dakar, le cheikh Tamim Ben Hamad Al Thani va s'entretenir avec le président Macky Sall. Prévue sur 3 jours, cette tournée doit le mener jeudi au Mali, puis en Guinée. Le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire et le Ghana sont également au programme, mais Doha n'a fourni aucun calendrier. Depuis plusieurs années, le Qatar a consolidé ses liens économiques et diplomatiques avec le Sénégal. L'émir était d'ailleurs intervenu pour la remise en liberté de Karim Ouad, le fils de l'ancien président sénégalais. D'après le ministère qatari des Affaires étrangères, les pays africains choisis par le Qatar ont un fort potentiel économique malgré des défis sécuritaires. Des signatures d'accords dans les secteurs des mines et de l'énergie seront aussi au programme. Bien que riche émirat gazier, le Qatar est confronté depuis plus de 6 mois à une crise diplomatique qui l'oppose surtout à son voisin saoudien qui lui a imposé des sanctions drastiques.
Des députés du groupe Afrique-Caraïbes-Pacifique et de l'Union européenne vont mener en Mauritanie d'ici juin 2018 une mission d'information sur la situation des droits humains dans ce pays. C'est ce qui ressort d'une résolution adoptée hier à Port-au-Prince en Haïti par l'Assemblée ACP-Union européenne. Elle précise dans une résolution qu'en Mauritanie, des défenseurs des droits de l'homme et des opposants au gouvernement feraient l'objet de poursuites politiquement motivées. Les droits à la liberté d'expression, d'association et de réunion pacifique sont restreints.
En Ouganda, les députés ont voté hier à une majorité écrasante la suppression de la limite d'âge pour être élu président. Ils ouvrent ainsi la voie à une nouvelle candidature en 2021 de Yoweri Museveni pour deux mandats de 5 ans. Il est âgé maintenant de 73 ans et au pouvoir depuis 1986. Le Parlement ougandais est largement dominé par son parti. Pour l'avocat et défenseur des droits de l'homme Nicholas Opio, ces décisions constituent un revirement pour le processus démocratique et vont enraciner le régime autocratique et dictatorial en Ouganda.
Au Soudan du Sud, le coordonnateur de l'ONU pour les affaires humanitaires a annoncé hier que 6 travailleurs humanitaires, un étranger et 5 sud-soudanais portés disparus dans le nord-ouest du pays étaient de retour sains et saufs. Le Soudan du Sud a plongé en décembre 2013 dans une guerre civile qui a fait des dizaines de milliers de morts et qui oppose les forces du président Salva Kiir aux rebelles de son ex-vice-président Riek Machar.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Ici à Washington, le sénateur démocrate Mark Warner a dénoncé hier ces voix qui, selon lui, demandent de plus en plus et de manière irresponsable la fin de l'enquête du procureur spécial Robert Mueller sur l'ingérence russe dans la présidentielle de 2016. Cela, a-t-il averti, pourrait provoquer une crise constitutionnelle aux États-Unis pour abus de pouvoir. Monsieur Warner, vice-président de la commission sénatoriale du renseignement, a déclaré dans un discours au Sénat que le limogeage de M. Mueller ou de tout autre haut responsable chargé de l'enquête actuelle remettrait en cause non seulement l'engagement de l'administration Trump à découvrir la vérité, mais aussi son attachement au principe fondamental de la primauté du droit. Dimanche, le président Donald Trump avait assuré qu'il n'avait aucune intention de se débarrasser de M. Mueller, démentant qu'il y ait eu collusion entre sa campagne et les Russes.
D'autre part, le président Trump et ses partisans républicains au Congrès célèbrent l'adoption de sa réforme fiscale, la première grande victoire législative de sa présidence. « Nous rendons à l'Amérique sa grandeur », s'est-il écrié lors d'une cérémonie à la Maison-Blanche où les parlementaires et son numéro 2, Mike Pence, ont vanté son leadership. M. Trump a félicité en particulier le chef de file de la majorité républicaine au Sénat, Mitch McConnell, le président de la Chambre des représentants Paul Ryan et le vice-président Pence pour, je cite, « la plus grande réduction d'impôts de l'histoire des États-Unis », quelque chose de vraiment spécial. Fin de citation. Nous y reviendrons en seconde partie.
Par ailleurs, le président Trump brandit des menaces contre les pays membres de l'ONU qui vont voter aujourd'hui à New York une résolution condamnant la reconnaissance par Washington de Jérusalem comme capitale d'Israël. Des détails avec Eric Manirakidza.
L'ambassadrice américaine à l'ONU, Nikki Haley, a déclaré que le président Trump suivra attentivement son vote et lui a demandé de noter les pays qui vont voter contre sa volonté. Donald Trump menace de couper des financements américains à ces pays. Pour le patron de la Maison-Blanche, ces pays ne doivent pas prendre l'argent américain et voter contre les États-Unis à l'Assemblée générale de l'ONU. Le représentant turc à l'ONU a indiqué que la raison du plus fort n'a plus de place dans un monde qui combat l'injustice. Aucun État qui se respecte ne courbe les chines face à son genre d'oppression, a-t-il martelé. Lundi, Washington avait déjà mis son veto au Conseil de sécurité à un texte introduit par l'Égypte pour évoquer la décision américaine sur Jérusalem. Le projet de résolution soumis à l'Assemblée générale souligne que toute décision sur le statut de Jérusalem n'a pas de force légale et doit être révoquée. Le texte rappelle que Jérusalem doit faire partie d'un accord global de paix entre Israéliens et Palestiniens.
Des militaires sud-coréens ont effectué une vingtaine de tirs de sommation quand des soldats nord-coréens se sont approchés de la frontière après la défection vers le sud d'un des leurs. C'est ce qu'a déclaré à l'AFP un porte-parole du ministère sud-coréen de la Défense. Les soldats nord-coréens postés à la frontière semblaient en train de rechercher l'homme qui avait auparavant franchi dans un épais brouillard la zone démilitarisée divisant la péninsule, a-t-il précisé.
Les États-Unis ont pris des sanctions financières contre 5 Russes, y compris l'homme fort de la Tchétchénie, Ramzan Kadyrov, accusé de répression meurtrière contre des personnes tentant de révéler la corruption gouvernementale. Pour le département américain du Trésor, M. Kadyrov supervise une administration impliquée dans des disparitions et des exécutions extrajudiciaires. Il a, pense-t-on, ordonné le meurtre d'un de ses opposants après que ce dernier a fait des allégations de torture et de mauvais traitements en Tchétchénie, dont certaines contre M. Kadyrov lui-même. Fin de ce journal sur VOA Afrique, vous écoutez Le Monde aujourd'hui.
La Minute Éco, Eric Manirakiza.
Le budget du Mali pour l'exercice 2018 s'élève à près de 2331 milliards de francs CFA. Le déficit global dépasse 373 milliards. L'accord pour la paix et la réconciliation au Mali, la loi d'orientation et de programmation militaire et la loi de programmation relative à la sécurité intérieure sont des projets cruciaux du budget. Au Sénégal, la croissance du produit intérieur brut devrait dépasser 6% en 2017 pour la troisième année consécutive. D'après le FMI, la stabilité macroéconomique liée à la performance des services, du tourisme et du secteur agricole explique ce résultat. Par contre, la hausse des prix du pétrole et les faibles exportations vont augmenter le déficit à près de 8% du produit intérieur brut. Le Cameroun lance en 2018 une nouvelle phase du projet dit « filets sociaux » pour réduire la pauvreté et l'insécurité alimentaire. Il s'agit d'un mécanisme de transfert d'argent aux ménages les plus pauvres. La Banque mondiale va décaisser plus de 30 milliards de francs CFA. Tous les deux mois, chaque bénéficiaire recevra 20 000 francs CFA pour une période de 24 mois. Ce projet couvrira 10 régions du Cameroun. Entre 2018 et 2030, la Zambie veut mobiliser 50 milliards de dollars pour lutter contre les changements climatiques. La priorité sera portée sur l'énergie, l'agriculture, l'eau et les ressources naturelles.
À présent, les sports avec Nicolas Pinault. Nicolas, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
La FIFA nomme un comité de normalisation à la tête de la Fédération malienne de football.
Après le Cameroun, c'est au tour du Mali d'être sanctionné pour la mauvaise gestion de son football. La Fédération internationale de football a nommé un comité de normalisation pour gérer les affaires de la FEMAFOOT. Ce comité doit organiser les élections de son nouveau comité exécutif d'ici au 30 avril prochain.
En Angleterre, sale soirée pour Manchester United.
Les Red Devils qui tombent sur une équipe de deuxième division, Bristol, qui se qualifie pour les demi-finales de la Coupe de la Ligue après sa victoire sur les Mancuniens 2-1. Ibrahimovic avait pourtant égalisé sur coup franc. Et puis Chelsea qui se qualifie pour les demi-finales grâce à Morata, 1-0 aux dépens de Bournemouth.
En Allemagne, le choc Bayern-Dortmund tourne à l'avantage des Bavarois.
Irrésistible en première période, le Bayern Munich a éprouvé davantage de difficultés en seconde période, mais bat Dortmund 2-1 lors des huitièmes de finale de la Coupe d'Allemagne.
Le PSG part en vacances avec le sourire.
Paris va pouvoir passer les fêtes bien au chaud. Nouvelle victoire 3-1 hier soir contre Caen avec début de Cavani et Mbappé. Leader incontesté de la Ligue 1, le club parisien conserve 9 points d'avance sur ses poursuivants au classement Monaco et Lyon après 19 journées.
Basket africain.
Ah oui, la formation marocaine de l'association sportive de Salé a remporté la Coupe d'Afrique masculine des clubs champions de basketball. C'était à Tunis en finale du tournoi hier. La SSS est venue à bout de l'étoile sportive radésienne, 77 à 69. Un peu plus tôt, c'est l'Union sportive monastirienne qui avait fini troisième en battant 77-74 le Sport Libolo et Benfica. Allez Idrissa, je vous laisse donner quelques résultats de NBA, le championnat de basket nord-américain.
Toronto et Charlotte, 129 à 111. Indiana et Atlanta, 105 à 95. Miami et Boston, 90 à 89. Sacramento et Brooklyn Nets, 104 à 99, Orlando et Chicago, 94-112, LA Lakers et Houston, 122 à 116, Utah et Oklahoma City, 79-107, Minnesota et Denver, 112 à 104.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Sedoudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Comme annoncé dans la première partie, le Congrès américain a adopté hier la plus grande réforme fiscale depuis 31 ans, réforme de baisse d'impôts que le président Donald Trump a qualifiée d'historique. Pour une analyse, Eddie Isango a joint le professeur d'économie et de fiscalité au Southeast College dans le Nebraska, Eric Haïté.
C'est la première fois dans 30 ans que quelque chose de la sorte a été fait. Mais il faut aussi souligner certaines choses. Pour la première fois, donc, les entreprises vont payer un peu moins d'impôts. Ils pensent que cela va quand même avoir une conséquence sur les salaires qui sont payés aux employés d'une façon indirecte. Mais je ne sais pas si on peut affirmer ça avec beaucoup de certitude. Ça dépend des décisions qui sont prises au niveau de chaque entreprise. Ils vont payer moins d'impôts, mais cela ne suppose pas qu'ils vont nécessairement augmenter aussi les salaires de leurs employés. Donc, ça reste à voir. Dans le cas régional, il faut voir que c'était beaucoup plus axé sur les entreprises et moins sur des super riches comme le cas de Trump, par exemple. Je crois que ça, c'est un peu la différence nette qu'il faut remarquer tout de suite. Certaines personnes, en comparant les deux, pensent que cela va donner un boom à l'économie, comme dans le cas de la période régionale. Mais à voir dans les détails, il y a plusieurs différences.
Les démocrates estiment que cette réforme va plutôt bénéficier aux millionnaires qu'à la classe moyenne.
C'est un peu difficile de dire que ça va profiter directement à la masse. C'est bien vrai que les entreprises vont payer moins en impôts, mais cela ne va pas nécessairement dire qu'ils vont payer plus à la masse, étant donné que la plupart de ces républicains sont soit des propriétaires d'entreprises ou des gens qui ont assez investi dans des grandes entreprises. Oui, on peut dire sans chance de se tromper que cela va profiter donc à ces gens-là.
Certains arguent que cette réforme va plutôt provoquer un déficit au niveau de la caisse de l'État, avec pour conséquence une inflation plus tard.
On ne peut pas se tromper en disant que dans un système, tout le monde peut payer moins et que le système va toujours continuer à fonctionner. Il faut que l'argent vienne de quelque part. Alors, si on coupe un peu les impôts que les entreprises paient actuellement, et qu'on veut aussi donner plus de subventions aux familles pauvres, on se demande d'où est-ce que l'argent viendrait. La seule façon peut-être de faire fonctionner un système comme ça, c'est de couper d'autres secteurs d'aide qui sont accordés donc aux familles pauvres. Ça, c'est la première possibilité. Ou bien l'État serait dans une situation difficile, ce qui fait qu'avec le temps, il y aurait une flambée de prix. C'est possible. Ça, c'est une deuxième possibilité.
Certains pensent que ce sera plutôt un bénéfice pour Trump pour l'élection prochaine.
Si les gens pensent, en un premier temps, qu'ils vont avoir un peu d'argent sur leur compte, alors ils vont voter pour un candidat qui fait cette promesse-là. Il suffit que ce candidat soit capable de les convaincre.
C'était Eric Haïté, professeur d'économie et de fiscalité au Southeast College dans le Nebraska, ici aux États-Unis.
Dans Washington Forum ce jeudi 21 décembre, en Afrique du Sud, Cyril Ramaphosa a été choisi pour remplacer Jacob Zuma à la tête de l'ANC. Quel changement pour le parti au pouvoir? A-t-il des chances de gagner les prochaines élections? Quel impact sur l'avenir de l'Afrique du Sud? Laissez-nous vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique. Rendez-vous ce jeudi à 19h en temps universel avec Ekia Badou et ses invités.
Au Tchad, les acteurs politiques ne s'entendent pas sur l'organisation du Forum national pour les réformes institutionnelles prévues pour le mois de février 2018. Ce forum doit porter sur l'examen du rapport final du Comité technique d'appui aux réformes institutionnelles, rapport qui est sur la table du Haut Comité politique d'orientation de ces réformes pour étude. L'opposition démocratique réitère sa non-participation à cette consultation et exige un dialogue inclusif, nous dit de N'Djamena notre correspondant André Kotmajingar.
Les questions divergentes de ce document sont entre autres le découpage administratif et le choix de certains chefs-lieux. Des 23 régions que compte le pays, le rapport propose 12 provinces, 8 au nord et 3 au sud avec la ville de N'Djamena qui a un statut particulier. Aussi, le rapport propose que le mandat présidentiel passe de 5 à 7 ans renouvelables une seule fois, ce qui permettra au président Déby de briguer deux autres mandats de 7 ans après 2021. Gagner encore 14 ans permettra à Déby de préparer son dauphin dans la famille comme ce fut le cas au Togo, en RDC et au Gabon, estime l'opposition démocratique. Pour le chef de l'opposition tchadienne Saleh Kebzabo, participer à ce forum, c'est valider la promesse électorale du président de la République.
Comble de l'ironie, l'on demande à ceux qui ont battu Déby de participer à un forum pour valider son programme électoral. Autant demander aux ex-candidats de renoncer à la lutte et d'adhérer tout simplement au MPS. C'est ça l'esprit du forum. Le forum là, c'est quelque chose d'antinational qu'il faut combattre.
Trois regroupements des partis politiques de l'opposition qualifie la tenue de ce forum d'une vaste opération pour détourner l'attention des Tchadiens sur de vrais problèmes qui se posent à l'heure actuelle. Ali Gabriel Golor, porte-parole de la coordination des partis politiques pour la défense de la Constitution, est l'un des signataires.
Nous sommes dans une situation de crise aiguë et cette situation nécessite que toutes les couches sociales se rencontrent pour réfléchir ensemble. Or aujourd'hui, si le gouvernement recrute quelques partisans et qui veulent imposer une solution qui ne concerne que la réforme des institutions. En jetant un coup d'œil dans le rapport, on nous dit que les Tchadiens ne sont pas encore mûrs pour la fédération et qu'il faut plutôt opter pour un État unitaire fortement décentralisé. C'est la solution qui a été préconisée par la Conférence nationale. Et ceux qui nous dirigent ont refusé. À la limite, ils prennent les Tchadiens pour des cons.
Maître Nadi Madou, membre du comité technique interministériel, par ailleurs secrétaire général adjoint de la primature, qui suit toutes ces agitations de l'opposition, sourit en pointe. Pour lui, avec ou pas l'opposition, le forum aura bel et bien lieu.
Il s'agit effectivement de la mise en œuvre du programme du candidat. Nous avons gagné, nous avons la majorité à l'Assemblée, nous avons tout. On peut valider ces réformes-là comme on veut. Mais on a voulu associer tous les Tchadiens pour que ceux qui ont d'autres choses à ajouter puissent ajouter. Mais ça ne veut pas dire que sans opposition, il ne peut pas avoir forum. Non.
Cette messe, selon le pouvoir, vise donc à consolider la démocratie et renforcer l'efficacité de l'État. André Kodma Djingar Djamena pour VO Afrique.
Votre rendez-vous quotidien 24h/24 sur VOA Afrique, N'Djamena au Tchad sur 93.1 FM.
Le Burkina Faso a interdit les importations en provenance de la Corée du Nord, décision prise à la suite d'une interpellation des États-Unis en octobre. Elle se conforme aux résolutions de l'ONU interdisant toute activité commerciale avec Pyongyang, sanctionnée pour ses essais nucléaires et tirs de missiles balistiques. Eric Manira Kiza a joint à Ouagadougou le ministre des Affaires étrangères, Alpha Barry.
On ne s'était même pas rendu compte qu'il y avait réellement des importations venant de Corée du Nord. Lorsque on a vu quelques articles, notamment dans la presse américaine, nous avons diligenté une enquête, notamment moi j'ai écrit à mes collègues du commerce et des finances, et on a constaté effectivement que pour l'année 2017, de janvier jusqu'au mois d'août, on était à environ 7 millions de dollars d'importations, et que en 2015, ces importations avaient même atteint 38 millions de dollars. Ça concerne divers produits, mais essentiellement les produits pétroliers.
Est-ce que la décision s'applique même aux importations qui seraient en cours?
C'est une décision avec effet immédiat et donc s'applique avec tout ce qui est en cours. Donc nous avons décidé que tout devrait s'arrêter pour être vraiment conforme à la réglementation internationale, notamment aux résolutions du Conseil de sécurité.
Mais pour des importations en cours, est-ce que ce n'est pas pénalisé doublement?
De toutes les façons, la résolution des Nations Unies offre une souplesse à ce niveau, avec des délais quand il y a des choses qui sont en cours et lorsque la décision est prise. Donc, à ce niveau, il n'y a pas de problème. Nous allons donc observer cette souplesse qui est contenue dans la résolution elle-même et qui permet que des transactions, des importations qui sont en cours puissent se dérouler normalement. Mais il n'y a plus de nouvelles demandes d'importation comme cela s'est fait au ministère du Commerce de Burkina, ce qu'on appelle les DPI, les déclarations préalables d'importation. Tout ça, c'est interdit maintenant.
Le marché nord-coréen est donc suspendu. Est-ce que vous avez offert d'autres alternatives aux commerçants, par exemple, qui se dirigeaient vers la Corée du Nord?
En dehors de 2015, où il y a eu quand même un pic assez important, jusqu'à 38 millions de dollars d'importation, sinon les hommes d'affaires peuvent bien s'orienter vers d'autres horizons, comme dans l'Asie du Sud-Est ou en Chine et autres. Vous savez, les hommes d'affaires ont le secret que nous, on n'a pas forcément, donc ils seront se débrouiller.
Il n'y aura donc aucun impact sur le pays?
Nous ne le pensons pas. Nous ne pensons pas parce que le fait qu'il y ait eu des importations de produits pétroliers en 2015, mais en 2016, il n'y en a pas eu. En 2017, il n'y en a pas eu principalement. Donc, ça ne devait pas jouer sur le niveau de consommation au niveau du pays.
C'était le ministre burkinabé des Affaires étrangères, Alpha Barry.
Restez branchés sur VOA Afrique à Ouagadougou sur 102.4 FM au Burkina Faso.
En Côte d'Ivoire, les transporteurs ne sont pas contents. La raison de leur indignation, des mesures prises il y a quelques jours par le gouvernement pour limiter l'âge des véhicules importés. Notre correspondant Georges Ibrahim Tunkara est allé à leur rencontre.
La pilule est difficile à avaler chez les transporteurs. Désormais, ils ne pourront importer que des véhicules de 5 ans maximum pour en faire des taxis, 7 ans pour les mini-cars et 10 ans pour les cars de plus de 34 places et les camions de plus de 10 tonnes. Une mesure qui vise, selon le gouvernement, à lutter contre les accidents de la route et le réchauffement climatique. Touré Adama est le président de la Coordination nationale des gares routières de Côte d'Ivoire. Il dénonce cette décision.
Une décision incongrue que nous dénonçons et que nous demandons vraiment purement et simplement le retrait, parce que nous n'avons pas demandé à l'État de nous donner de l'argent pour avoir nos véhicules. Nous avons souffert pendant des décennies pour avoir le matériel roulant avec lequel nous payons plus de 300 milliards de francs CFA par an comme contribution dans les caisses de l'État. Il serait important que nous soyons assis autour d'une table et que nous leur disons nos problèmes et qu'ils comprennent et que ce ne soit pas parce qu'ils sont en train d'arranger leurs parents et leurs amis en leur octroyant des véhicules neufs que nous qui avons le plus grand nombre de véhicules en Côte d'Ivoire, nous puissions être cloués au pilori simplement parce qu'aujourd'hui, on croit qu'on est assis et qu'on a les moyens de faire ce qu'on veut.
Les importateurs et revendeurs de véhicules d'occasion sont eux aussi vent debout contre cette mesure du gouvernement ivoirien. Alain Serge Kouassi.
Vu qu'on n'a pas de chiffre d'affaires en tant que tel, nous nous débrouillons, donc ça serait vraiment pénible pour nous. Nous ne pourrons plus importer des voitures et ça serait très difficile, très très difficile. Beaucoup de parcs vont fermer.
Certains importateurs et revendeurs disent cependant approuver la mesure de restriction. Amadou Doumbia.
Ce n'est pas du tout nouveau, c'est une décision prise il y a près de 20 ans de cela. Mais la Côte d'Ivoire n'a pas voulu la mettre en application. Sinon, d'autres pays africains ont déjà commencé à mettre ça en application. Le Ghana, le Sénégal, la Tunisie, et d'autres pays, les véhicules de plus de 5 ans n'y entrent pas. Si on le fait aujourd'hui, que nous sommes dans une mondialisation où on parle de gaz à effet de serre, il faudrait bien que la Côte d'Ivoire se mette à jour.
Pour Amadou Doumbia, il faudra en revanche que l'État renonce à certaines taxes douanières.
Il va falloir négocier pour enlever certaines taxes sur les véhicules qui arrivent. Et comme ça, ça va amoindrir le coût sur le terrain. Mais si on maintient les taxes, c'est sûr que les véhicules seront plus chers.
Pour le président de la Coordination nationale des gares routières de Côte d'Ivoire, le gouvernement devrait s'inspirer de l'exemple du Sénégal, Touré Adama.
Il y a des pays frères comme le Sénégal qui ont eu la chance d'avoir des financements de la Banque mondiale, mais qui sont venus simplement sur le lieu d'embarquement et de débarquement des passagers pour recenser les véhicules que la population utilise. Les véhicules de 40 places, de 30 places sont là. Ils sont fatigués, plus de 30 ans, ils roulent. Mais vous ne venez pas les recenser dans les gares routières pour les remplacer. Vous vous enfermez, vous sortez sans taxi, vous sortez 50 taxis, vous faites la fête pour dire qu'on a donné, vous payez des bus pour la Sotra. Mais est-ce que la Sotra peut transporter toute la population ivoirienne?
La mesure a certes été adoptée par le gouvernement, mais de nombreux Ivoiriens se montrent sceptiques quant à son application. Ils disent simplement être habitués aux mesures sans suite. Georges Ibrahim Tunkara, Abidjan, VOA Afrique.
Hello, hello, I'm your English host. Je suis votre présentatrice pour l'anglais, Michelle Joseph, ici au micro. Voulez-vous mieux parler l'anglais? C'est fait. Retrouvez-moi tous les soirs à partir de 21h, temps universel, sur VOA Afrique et sur notre site internet à www.voaafrique.com, cliquez sur Apprenez l'anglais pour retrouver les leçons de tous les jours. Et les week-ends sur Onde Courte, le samedi et le dimanche à 20h TU. Pour mieux parler l'anglais, to speak better English, ne ratez pas English USA sur VOA Afrique.
Le Monde Aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. À la console, Daryl Smith. Merci à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Sidoudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.